franceinter.fr.
Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
Une opération de police a donc été déclenchée tôt ce matin à Birmingham dans le cadre de l'enquête après l'attentat perpétré à Londres. On revient avec vous Hélène sur les unes des quotidiens que les Britanniques découvrent ce matin dans leur kiosque.
Terreur à Westminster, titre le Guardian. Attaque contre la démocratie, affiche à sa une le Daily Mirror. Un fou attaque au couteau, le cœur de la Grande-Bretagne, dit The Sun. Partout, c'est à l'évidemment les photos du pont de Westminster, surnommé le pont de l'horreur, avec les premiers secours apportés par les passants aux blessés. Cliché à la une également du héros d'hier, le policier Keith Palmer, poignardé par le terroriste. Un policier qu'un député conservateur a tenté de réanimer et c'est l'autre héros du jour, Tobias Elwood. Un peu hagard dans son costume gris avec une tache de sang sur le front à ses pieds, nous raconte le Parisien. Le corps inanimé du policier, il a pratiqué sur lui un massage cardiaque, il lui a fait du bouche à bouche, mais en vain. Un député rattrapé par sa propre histoire, puisqu'en 2002, son frère faisait partie des victimes anglaises de l'attentat de Bali. Assez grande prudence, il faut le noter, des quotidiens britanniques sur les pistes autour de l'enquête en cours, même si l'hypothèse évidemment islamiste est avancée. Certains journaux pointent néanmoins les premiers éléments de polémiques à venir. Le terroriste a en effet pu descendre de son véhicule accidenté après avoir foncé dans la foule, ouvrir un des lourds portails d'accès au Parlement et poignarder un policier désarmé. Désarmé pour protéger l'accès à la Chambre des communes, s'interroge le Daily Mail, suspicieux face à ce manque de sécurisation. Le Guardian préfère retenir que le terroriste n'a finalement pas pu s'introduire dans le Parlement. Simon Jenkins, éditorialiste au Guardian, met d'ailleurs en garde contre tout risque de surréaction à cette attaque. Au lendemain des attentats de Bruxelles et plus encore de Paris, dit-il, la réaction des médias et des politiques avec leurs mots de panique, terreur, guerre a été proche de l'hystérie, estime-t-il. Quel meilleur mégaphone alors pour l'État islamique ? Eh bien à nous aujourd'hui d'être responsables dans les photos que nous publions, dans les commentaires que nous faisons. Ce n'est pas de l'autocensure, dit-il, c'est de l'autodéfense.
Chez nous Hélène, la campagne présidentielle se poursuit avec encore un tournant. Pour François Fillon, c'est ce que nous dit la presse ce matin.
Un tournant, un de plus, j'ai envie de dire, mais ce matin, les Échos, le Figaro, l'Opinion, autant de titres qu'on ne peut pas qualifier de franchement gauchistes, pointent donc ce tournant alors que François Fillon est attendu ce soir pour un nouveau grand oral, l'émission politique sur France 2. Et savez-vous à quoi les proches même du candidat attribuent cet énième tournant ? Eh bien, à l'affaire des costumes, ceux offerts généreusement par son ami Robert Bourgi. Oui, il y a eu une rupture sur le terrain la semaine dernière, liée à cette affaire des costumes, confie à Marion Mourgue du Figaro, un député Les Républicains. Sur les marchés, raconte un autre à Ludovic Vigone de l'Opinion, les militants qui tractent n'entendent plus que « les costumes, les costumes ». Cette histoire a un effet désastreux, raconte un autre élu investi dans la campagne, à Caroline Vigoureux. Les maires s'approchent de moi avec un sourire, ils touchent la manche de ma veste, ils ne disent rien. Mais ça suffit, témoigne-t-il. L'alerte rouge clignote donc autour du candidat, d'autant que les poids lourds de la campagne de Fillon se sont rendus compte d'une bien curieuse réalité, nous raconte ce matin Cécile Cornudet dans Les Échos. Je découvre qu'il n'aime pas faire campagne, se désole un ancien ministre engagé dans le dispositif. Et oui, ça l'emmerde ce truc, grince un autre en référence à une phrase lâchée par Nicolas Sarkozy en 2012. Le QG de campagne est donc déserté, un bateau fantôme paraît-il. Le candidat n'embraye pas sur les idées et puis surtout, il va peu sur le terrain. Résultat, ils font campagne sans lui, cap sur les législatives avec pour certains dans la tête déjà un plan B. Et oui, encore un plan B. Même en cas de défaite de Fillon, le groupe parlementaire LR à l'Assemblée pourrait bien être majoritaire et éventuellement du coup imposer une cohabitation, par exemple à Emmanuel Macron. Vos journaux qui détaillent également ce matin les déclarations de patrimoine des 11 candidats avec les ajustements des uns et des autres. Le site du Huffington Post s'amuse lui de l'anti-déclaration pleine d'humour, dit Geoffroy Clavel, de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat a en effet devancé l'appel de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique en publiant d'abord sur son blog l'état de son patrimoine et en le commentant. Au total, dit-il, je suis assez nanti pour rassurer les petits bourgeois et pas assez pour indigner mes voisins de kebab. Mélenchon qui en profite surtout pour dresser un portrait en creux du mode de vie de ses rivaux. Je n'ai pas hérité d'un château où me loger, dit-il, en visant évidemment Marine Le Pen. Aucun membre de ma famille n'a été mon employé et je n'ai jamais reçu aucune rémunération du Venezuela, de Cuba, de l'Équateur, etc. où quelques-uns de mes amis ont eu de l'influence, visant cette fois qui vous savez, Jean-Luc Mélenchon qui conclut par une promesse, une nouvelle. Si je suis élu, sachez que je continuerai à vivre chez moi, dans mon quartier, tout en payant ma quote-part à la République pour mon logement de fonction. Et comme vous n'aurez pas de première dame car je suis célibataire, et ben au total, je serai un président moins cher. Au chapitre politique, un article intéressant de Richard Verly, correspondant à Paris pour le quotidien suisse Le Temps. Une chronique mode d'emploi, dit-il, pour savoir comment traiter la campagne de Marine Le Pen. C'est un défi journalistique, relève-t-il. Doit-on la réduire à son parti, aux idées nauséabondes, ou à l'inverse, doit-on se focaliser sur ce qu'elle représente, à savoir la colère des Français, celle qui est plébiscitée sur le terrain pour avoir le courage d'ouvrir les débats, selon la théorie, dit Verly, de l'ouvre-boîte. Eh bien, le journaliste retient quelques critères pour bien faire son travail. Ne jamais oublier le patrimoine génétique de la candidate, c'est-à-dire celui de son parti. Ne jamais oublier que le FN est une machine conçue par la famille Le Pen, pour la famille Le Pen. Et puis surtout, opérer, plus encore peut-être que pour tous les autres candidats, un travail de validation des chiffres, des faits et des sources. Un viatique journalistique pas forcément inutile.
Nicolas Hulot, cette mise à nu des candidats à la présidentielle, ce passage à l'essoreuse, j'imagine que ça ne...
que si j'avais été candidat, j'y serais passé.
Oui, et...
c'est bien ou c'est pas bien?
Non.
Je pense que c'est bien sur un plan démocratique. Je suis pas sûr que ce soit très agréable pour les candidats d'être obligés de s'exposer comme ça, mais enfin, en même temps, c'est une exigence de démocratie.
En tout cas, ça ne vous donne pas de regrets supplémentaires
sur cet aspect. Sur cet aspect-là, pas vraiment, non.
Vérifiez les faits et les sources, vous en parliez, Hélène Jouan, ça vaut évidemment pour tous les sujets.
Et dans le cadre de la semaine de la presse à l'école, le petit Libé se propose d'aider les enfants à s'y retrouver dans la jungle de ses sources. Et s'ils ont un exposé à faire, par exemple, sur le réchauffement climatique, ça tombe bien. Alors plusieurs articles sont proposés à la sagacité enfantine, un papier du Monde par exemple, un autre signé par un chercheur d'une compagnie pétrolière qui nie l'existence d'un tel réchauffement, un communiqué encore qui vante l'huile d'olive pour faire rouler nos voitures. Alors à chaque fois, il s'agit de se prononcer sur la fiabilité donc de ces sources. Les indices sont assez gros, mais c'est quand même clairement pédago. Avancer dans la jungle de l'information pour éviter les contre-vérités et les mensonges avérés, ça vaut pour les enfants, les journalistes évidemment, on l'a dit. Pourquoi pas, tiens, pour les candidats à la présidentielle, afin qu'ils ne tombent pas à leur tour dans des vérités approximatives ou des arguments complotistes peu responsables et détectables souvent par des enfants de 10 ans, puisqu'ils sont désormais éduqués par le petit Libé.
Merci à vous Hélène Jouan pour la revue de presse.